Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marques engagées ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! La seconde main est une solution identifiée comme responsable spontanément par les consommateurs et les consommatrices. Cela est désormais validé par une étude commandée par Vinted dont les résultats sont publiés dans le rapport d'impact climatique. Ce rapport montre que de meilleurs choix, même petits, peuvent avoir un impact positif, mis bout à bout. Mais quels sont ces meilleurs choix en matière de packaging, de transport ou encore de livraison à domicile ou en point relais ? En commissionnant un expert indépendant pour son rapport d'impact climatique, Vinted cherche à comprendre l'impact réel de la seconde main et à apporter des chiffres d'envergure qui manquaient pour mesurer réellement ses actions. Cette publication marque l'entrée de Vinted dans la catégorie des grands acteurs de l'e-commerce engagés, cherchant à rendre crédibles et mesurables ses engagements, année après année, en faveur d'une économie circulaire à l'impact réellement positif. Retour sur les résultats du rapport et les enseignements tirés pour l'entreprise, comme pour les 80 millions de membres à travers le monde, avec Natacha Blanchard, Global Consumer PR Lead chez Vinted. Bonne écoute! Bonjour Natacha.
Bonjour Victoire.
Bienvenue. Merci d'être là après la soirée d'hier qui consistait à parler devant des journalistes des résultats du rapport d'impact climatique, donc plutôt à destinée du grand public. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Vinted avec un prisme un petit peu plus professionnel.
Oui.
Une entreprise dans laquelle tu travailles depuis 4 ans. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter et me parler un petit peu de ton parcours avant Vinted ?
Oui, sans problème. Donc, je suis Natacha Blanchard. J'ai 36 ans, je suis chargée de communication chez Vinted et ça fait effectivement 4 ans que je suis dans l'entreprise. Ce qui est très intéressant, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ces 4 dernières années et quand je suis arrivée en 2019, c'était un peu la période où effectivement Vinted prenait beaucoup d'ampleur, surtout en France, on pourra y revenir, ça reste le premier marché pour Vinted. Donc ça m'a permis de voir le succès grandissant aussi de l'application en Europe, mais aussi d'être témoin de toutes les discussions en interne, de tous les débats aussi parfois sur la seconde main sur Vinted, l'impact, etc. Donc c'est vraiment l'occasion aussi d'aujourd'hui d'en parler. Niveau parcours... je suis née à Grenoble, j'ai grandi à Reims, voilà, et ça fait maintenant plus de 10 ans que j'habite à Berlin, en Allemagne, où Vinted a également un bureau. J'ai travaillé toujours dans le secteur plutôt e-commerce, plutôt dans la communication, sur des secteurs différents. Ça a commencé par tout ce qui était jouets, puériculture, et puis après, je suis passée sur le secteur de l'habillement, le textile. J'ai travaillé pour des plateformes comme Zalando, par exemple, avant. Et puis, en 2019, quand j'ai intégré Vinted, c'était une vraie curiosité aussi. La seconde main, je connaissais bien évidemment, mais c'était peut-être pas ancré dans mes habitudes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça s'est assez vraiment développé, ou presque redéveloppé, je dirais, avec l'arrivée de Vinted.
Donc, tu n'étais pas partie à Berlin au lieu de la fripe, quand même, pour
oui.
ça,
ah,
pour
oui,
cette
oui.
raison. Parce qu'ils étaient assez en avance sur le sujet. Et d'ailleurs, oui. Vinted existe à Berlin depuis combien ? Enfin, en Allemagne, je veux dire, depuis le début, depuis... parce que la France s'est arrivée après. Ça fait 10 ans que l'entreprise oui. s'est développée en France.
Tout à fait. Alors, l'entreprise, elle est, il faut le rappeler, elle est lituanienne. Donc, elle a été créée, elle a été fondée à Vilnius. Et c'est toujours là où on a notre siège social avec le plus grand nombre d'employés. Il y a à peu près 1000 employés qui sont basés au siège social à Vilnius. Il y a un bureau à Berlin depuis plusieurs années déjà. Mais l'application elle-même, donc Vinted, s'est lancée en Allemagne. C'était le deuxième marché après Vilnius. C'était une petite anecdote qu'on pourra retracer un peu l'histoire de Vinted. Mais c'est, effectivement, ça s'est lancé en Lituanie. Et par la nature des choses, l'Allemagne, ça a été le premier marché où Vinted s'est étendu à l'international. Effectivement, Berlin, par exemple, c'est, comme tu le disais, un haut lieu... au lieu de la fripe, je pense la tradition des marchés aux puces aussi, c'est des ventes au kilo, etc. C'est vraiment ancré dans la tradition. C'est la balade dominicale aussi. Donc, c'était quelque chose qui était très intéressant et ça marche plutôt bien aussi. C'était des plateformes différentes qui ont pris le nom de Vinted il y a quelques années maintenant. Donc, historiquement, c'est un marché qui émotionnellement aussi, qui est important aussi pour l'entreprise.
Et alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ton dressing, à quoi ça ressemble et comment tu t'habilles? Où est-ce que tu t'habilles?
Oui, il faut savoir que je suis l'aînée de trois filles, de trois sœurs. Donc, c'est vrai que même quand on remonte à mon enfance, j'ai beaucoup vu les vêtements se transmettre aussi. C'était assez naturel, c'était assez pratique et assez économique, tout simplement. Ensuite, à l'arrivée à Berlin, c'est vrai que j'ai un peu redécouvert aussi cette culture-là. Et puis, quand j'ai intégré Vinted, c'est vraiment là que la prise de conscience, on va dire, adulte s'est faite autour de la seconde main. À l'heure actuelle, bon, j'ai jamais été une grande shopping addict non plus. À l'heure actuelle, mon dressing a drastiquement réduit. J'ai fait pas mal de tri aussi. Je fais attention à continuer à faire régulièrement du tri. Je me force presque parce que j'ai une tendance à m'attacher assez vite aux objets, aux vêtements que je peux avoir. Et actuellement, le dressing, plutôt un style un peu plus classique, peut-être parfois des pièces un peu streetwear, que j'essaye en premier lieu de prendre en seconde main, de toute façon. Quand j'ai une pièce en tête, c'est vrai que je vais essayer de la trouver en seconde main. Après, j'ai peut-être un péché mignon, un peu raisonné aussi quand même. C'est les boucles d'oreilles. Ça paraît anodin comme ça, mais ça l'est pas tellement. Et je pense que j'ai la moitié des paires qui est en seconde main, qui a été trouvée, chinée sur Vinted. C'était quelque chose que j'avais pas forcément pris l'habitude. Et maintenant, c'est assez intéressant. On trouve des super, super modèles.
Donc, t'es pas tombée dans la spirale qui consiste à revendre, vendre une pièce et dès que tu as un petit peu d'argent dans ton portefeuille, craquer pour une autre. Ce qui prouve que c'est complètement possible. Et ça fait partie des commandements des achats responsables sur la plateforme.
Oui, je pense que l'achat raisonné, hein, qu'il soit en seconde main de préférence, mais même s'il doit être en neuf par la force des choses, je pense que se poser la question si on a vraiment besoin de cette pièce, si c'est vraiment celle dont on a besoin aussi, celle à laquelle on pensait aussi quand on a commencé à chercher sur Vinted, par exemple. Ça fait partie des... En tout cas, moi, ça fait partie des questionnements que je me pose et j'évite l'achat comme ça. Si à moi, au moins, me poser la question, okay, si j'achète cette pièce-là, ce vêtement-là, est-ce que je suis sûre que je vais le porter plusieurs fois, plus d'une fois, même si c'est pour une occasion spéciale, faire attention, voilà, si c'est pour un mariage, une cérémonie, quelque chose que je vais pouvoir réutiliser. C'est assez important, c'est très important. Ouais.
Très bien. Alors, je veux bien qu'on fasse un petit historique de Vinted, cette énorme entité aujourd'hui. Tu nous as dit que c'était une entreprise lituanienne, elle était fondée par une femme, je crois. Oui. Et d'où lui vient cette idée? Quel était son background? Tu vois, est-ce que c'était dans l'e-commerce? Quelle était la vision au départ? Et aujourd'hui, si on peut reprendre un peu l'ensemble des jalons, des milestones qui ont fait le parcours de la marque sur 15 ans, combien vous êtes, dans combien de pays, tu vois, quelques datas pour qu'on se représente un petit peu?
Bien sûr. Donc, tu l'avais évoqué, mais ça fait 15 ans que Vinted a été fondée. Ça fait 10 ans que ça a été lancé en France. Donc, c'est un double anniversaire, on va dire ça comme ça. À l'origine, la fondatrice, donc Milda, est lituanienne. Et ça part vraiment d'une anecdote. Je qu'on a peut-être, on est plusieurs à avoir vécu. Elle habitait chez ses parents, donc il y avait un plus grand espace disponible, et donc elle avait aussi pas mal de vêtements, elle aimait beaucoup la mode. Et puis, elle est étudiante vers la vingtaine d'années, 20-21 ans, elle a déménagé dans la capitale, Vilnius, et là, elle s'est retrouvée dans un appartement plus petit, donc pendant le déménagement, elle a dû faire des choix, et elle a réalisé qu'elle avait beaucoup de vêtements, qu'elle ne pouvait pas tout prendre, elle n'avait pas besoin non plus de tous ses vêtements. Et elle a cherché à comprendre quoi en faire. Et plutôt que de les jeter, quelles pouvaient être les solutions. Elle a eu cette idée, du coup, d'avoir une plateforme, un espace où plutôt ses amis, sa famille, donc c'est vraiment plutôt pour les cercles proches à l'origine, pouvaient un peu voir ce qu'il y avait de disponible. Et puis récupérer les pièces dont ils avaient besoin, dont ils avaient envie.
Un peu comme un, pour bien comprendre, un groupe Facebook, mais elle a décidé de monter d'emblée sa propre plateforme digitale, quoi.
Elle a rencontré déjà le cofondateur, Justas. C'était un ami d'amis, et lors d'une soirée, elle lui a présenté un peu son projet. Elle connaissait rien du tout à la tech et tout. D'accord. Lui, c'était plutôt quelqu'un qui était dans ce milieu-là. Donc, il l'a aidé à monter la plateforme, donc un site internet. Qui, quand il a ouvert, était vraiment plutôt pour les amis, la famille, sauf que ce qui s'est passé, ce qui était très inattendu, c'était pas du tout leur objectif, c'est le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille a tourné, ils ont vu tout d'un coup les inscriptions s'envoler en Lituanie, les médias s'y sont intéressés, c'était pas un outil, c'était quelque chose de nouveau, en fait, en Lituanie. Et ça a pris très vite en Lituanie. Donc à partir de là, c'est resté pendant longtemps plutôt un hobby, qu'ils avaient tous les deux à côté de leur activité professionnelle. Miller, en l'occurrence, a aussi pas mal travaillé dans la communication. Ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, donc en 2019, il y a des applications où on peut accueillir des voyageurs, pas forcément donner les noms. Mais,
en 2009, tu veux dire ?
En 2009, donc après le lancement de Vinted. Ce qui s'est passé, c'est que Justas, le cofondateur, a accueilli chez lui en fait deux voyageuses d'Allemagne. Et puis en discutant lors d'une soirée, il lui a expliqué un peu ce concept de Vinted, qui ne s'appelait pas Vinted, mais je ne vais pas m'amuser à le prononcer en lituanien là.
Je me posais la question.
Et elles ont trouvé ça formidable. Et puis, elles se sont dit, tiens, c'est curieux, on n'a pas forcément une plateforme comme ça non plus en Allemagne qui nous permette de revendre ou de racheter des vêtements de seconde main à d'autres particuliers. Et elles ont proposé de tout simplement traduire le site. Et c'est comme ça que ça s'est lancé en Allemagne en 2009. Donc c'était, encore une petite anecdote. Et puis ce faisant, après, ça a pris de l'ampleur, il y a eu l'intérêt des investisseurs aussi, qui a permis aussi de s'étendre ensuite sur d'autres pays. La France, 2013, donc ça fait 10 ans. Voilà. Et actuellement, on est présent sur 19 pays, 17 en Europe et 2 en Amérique du Nord, hein, le Canada, les US. Le petit dernier, c'est la Roumanie, qu'on a lancé il y a 2 mois. Et ça représente plus de 80 millions de membres enregistrés sur la plateforme à travers ces 19 marchés, dont 23 millions en France, ce qui en fait la plus grosse communauté de Vinted à l'heure actuelle.
Et dans l'équipe, vous êtes donc c'est une équipe qui est internationale, vu que a priori il y en a donc en Lituanie.
Oui.
Toi, tu es en Allemagne.
Oui.
Mais tu bosses pour Vinted Monde, on va dire.
Oui.
Ou pas,
on travaille
spécifiquement
pour plusieurs marchés.
Et donc, combien est-ce que vous êtes et comment est-ce que vous êtes organisé ?
Alors, on est, en termes d'employés, on est un peu plus de 1500 à l'heure actuelle. La grande majorité est à Vinnius, au siège social. Ensuite, on a des bureaux à Berlin, à Amsterdam, par exemple. Mais on a aussi des employés qui travaillent depuis la France, qui sont basés à Paris ou ailleurs. On a aussi des petits entrepôts, puisqu'on a récemment lancé aussi nos consignes de transport, de livraison en propre en France. Donc on a des petits entrepôts, on emploie aussi des gens du coup en France. Mais oui, c'est très international. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir avoir la possibilité, peu importe notre nationalité, de pouvoir travailler pour plusieurs marchés. Donc ça, c'est culturellement même, c'est hyper intéressant. C'est très international comme équipe, le bureau de Berlin en l'occurrence, très international aussi. Donc c'est assez passionnant.
Et aujourd'hui, les deux cofondateurs sont toujours en poste et travaillent ?
Non, ça fait quelques années qu'ils ne travaillent plus pour l'entreprise pour des raisons différentes. En l'occurrence, Justas a continué à développer d'autres applications en Lituanie. Milda a voulu aussi, après des années, à faire grandir un peu son bébé, se reconcentrer sur sa famille, sur ses études aussi. Elle fait plein d'autres études depuis qu'elle est partie de chez Vinted. Par contre, il reste très impliqué, très proche de l'équipe management actuelle. Donc, on continue à les voir de temps en temps. Et, ils sont impliqués aussi, actionnaires. Ils sont restés vraiment très proches de l'équipe dirigeante actuelle et ils se tiennent en contact. Et même moi, personnellement, j'ai encore des contacts réguliers avec Mila.
Et en termes de répartition du capital, tu vois, est-ce qu'il y a eu à un moment donné des levées de fonds ? Est-ce qu'ils sont allés chercher des fonds externes ou est-ce qu'ils sont encore actionnaires majoritaires ? À qui ça appartient en fait aujourd'hui ?
Alors on a des investisseurs, on a 6 fonds d'investisseurs qui soutiennent aussi la croissance de l'entreprise. Et l'avantage, c'est qu'ils croient vraiment aussi en notre mission, c'est-à-dire vraiment l'impact possible par la seconde main, par ces modèles circulaires. Donc, c'est plutôt très intéressant. Et ça appartient aussi donc, au management actuel, à l'équipe dirigeante. Notre PDG, Thomas Plantenga, est arrivé en 2016 en tant que consultant à une époque où financièrement, ça n'allait pas du tout pour l'entreprise après les premières années de démarrage. Et donc, il a été, on va dire, dépêché sur place pour faire un peu une analyse de la situation et voir comment relancer aussi... l'entreprise. C'est à cette époque-là, en 2016 aussi, qu'on a fait des changements sur le modèle. Par exemple, supprimer les frais pour les vendeurs. Donc, s'assurer que les vendeurs puissent vendre et récupérer sans aucune commission l'argent des ventes. Instaurer de nouveaux outils comme la protection acheteur. C'était important aussi. Donc, pouvoir, avec des frais assez bas, apporter plus de protection, un système de paiement sécurisé entre particuliers, l'accès au service client. C'était important et c'est ce qui a permis un cercle un peu vertueux puisque, du coup, les gens qui vendaient, c'était plus intéressant pour eux. Donc, ils ont aussi mis davantage d'articles en ligne. Et donc, le catalogue s'est étoffé. Mmh. Et ça a permis aussi d'attirer les gens qui voulaient acheter en seconde main également. Donc, voilà. Donc, il y a l'équipe dirigeante, il y a les investisseurs. Les employés aussi ont des parts. Donc, on n'est pas du tout en bourse ni quoi que ce soit, mais ont des parts aussi dans l'entreprise.
OK. Top. Et est-ce que tu peux nous parler de t'as parlé des profils donc vendeurs professionnels, on va dire sur la plateforme. Vous avez différents modèles. Ça a commencé par le C2C, donc vraiment de particulier à particulier. Quelles sont les différentes autres manières de vendre et les types de profils utilisateurs et finalement quel est le modèle économique ?
Alors on reste avant tout et en grande majorité à un modèle particulier à particulier. Oui. C'est vraiment, vraiment le cœur de la plateforme et ça restera le cœur de la plateforme. Pourquoi ? Ben, tout simplement, quand on réfléchit seconde main, quand on réfléchit modèle circulaire, il faut se poser la question où sont-ils ces vêtements, ces accessoires de mode de seconde main qui sont inutilisés ? Eh bien, très souvent, ils sont dans nos dressings. Oui. Donc, il faut aller les chercher là où ils sont. Donc, encourager les gens à faire le tri, à réaliser aussi ce qu'ils ont chez eux qui ne sert plus. C'était important. Et puis, pareil, dans ce cercle vertueux, leur dire, voilà, et puis si vous voulez racheter, ben, pensez seconde main. Donc, c'est la grande majorité, c'est du particulier à particulier. Ça reste vraiment particulier à particulier. Et il faut aussi pouvoir développer ça à grande échelle, c'est-à-dire que actuellement 23 millions en France, c'est top, on peut encore aller en chercher davantage des utilisateurs. C'est vraiment pouvoir développer cette seconde main et ce réflexe seconde main à grande échelle pour que l'impact aussi soit plus important. Donc, c'est-à-dire comment contribuer à réduire l'impact négatif dans l'industrie de la mode via cette seconde main. Il faut vraiment que ça se fasse à grande échelle. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, en France, on a une catégorie qu'on appelle vendeur pro, mm-hmm. Qui reste une minorité à l'heure actuelle. Ça a plusieurs, pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour les acheteurs qui sont sur la plateforme, donc particuliers aussi, ça leur donne accès à encore un catalogue encore plus varié, donc plus de choix, plus de chances aussi de trouver ce dont ils ont besoin en seconde main. Pour les vendeurs, en particulier aussi, mais pros, ça leur donne accès à une base potentielle d'acheteurs aussi qui est importante. Et puis, y a eu la pandémie aussi. Donc, c'était déjà quelque chose en réflexion, la catégorie vendeur pro. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, pendant les premiers confinements, des demandes d'entrepreneurs individuels sur la seconde main ou même d'organisations caritatives qui ne pouvaient plus vendre en physique et qui ont demandé s'ils pouvaient du coup continuer à vendre et sur la plateforme. Or, on n'avait pas le cadre légal pour ça. Donc, les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour développer aussi ce cadre légal. Et donc, ça a été lancé en 2021.
Aujourd'hui, quand on est un acheteur particulier, est-ce qu'il y a un accompagnement sur la plateforme pour fixer le prix, par exemple? Est-ce que vous avez un petit peu la main là-dessus? Comment est-ce que vous gérez finalement cette... ce marché qui est super libre et dans lequel mm-hmm. on peut arriver et poster un peu n'importe quoi sans que ce soit authentifié et à n'importe quel prix. Comment est-ce qu'on régule ça et comment est-ce qu'on le gère sur un périmètre aussi étendu géographiquement?
Oui, aussi géographiquement, et puis aussi c'est plein de possibilités. Je pense qu'il faut revenir à la mission de base qui est de développer cette seconde main et d'encourager l'adoption de la seconde main comme l'un des modèles circulaires qui existent, par le plus grand nombre, pour que vraiment il y ait que ce ne soit pas une tendance, on va dire, passagère, mais vraiment un mouvement de fond et un vrai changement aussi dans les comportements et dans les habitudes de consommation. Donc pour ça, c'était important que l'accès à cette seconde main se démocratise. On n'est plus, en tout cas plus maintenant, dans une démarche de déstigmatiser la seconde main. C'est quelque chose qui est très adopté, très accepté par tous. On est dans une démarche de se dire, OK, comment on va faire pour vraiment continuer à la rendre la plus accessible possible par le plus grand nombre. Donc cet aspect démocratique aussi de la seconde main est accessible et très important. Ça passe par, on peut sur Vinted mettre en vente et acheter toutes les catégories de vêtements auxquelles on peut penser, les marques, les gammes de prix aussi sont très larges. Il faut savoir que quand on interroge les utilisateurs, une des motivations principales, l'achat en seconde main ou à la revente des vêtements qu'on n'utilise plus, c'est le pouvoir d'achat. Mmh. C'est très important. Donc, accès à toutes les gammes de prix possibles. Le vendeur est libre de lui-même définir le prix de la pièce qu'il veut vendre. Pour certains produits, de temps en temps, la plateforme peut montrer en fait sur des articles similaires les prix qui sont déjà pratiqués par les autres vendeurs. Mais ça reste complètement libre. On peut aussi réajuster le prix dans le temps. Il y a évidemment la possibilité pour les acheteurs de négocier aussi. La possibilité d'acheter ou de vendre en lot. Donc, c'est très large. Il y a une structure quand même, c'est libre, mais c'est structuré. Mmh. On essaye de faire en sorte, que c'est la grande, grande priorité, que même si c'est de particulier à particulier, comment on sécurise aussi ses achats et comment on garde un œil aussi sur ce qui circule. Donc quand on regarde les règles aussi de la plateforme, voilà, il y a des Il y a des types d'objets qui ne peuvent pas être mis en vente non plus. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la mode, les vêtements. On a des petites catégories complémentaires aussi qui fonctionnent plutôt bien, comme les objets de décoration, les petits objets de décoration, on n'est pas sur les meubles. Ça reste vraiment les vêtements, de toute façon, qui prennent le plus de place sur la plateforme. Et il y a ce vrai souci aussi d'apporter le maximum de sécurité possible pour encadrer ces échanges entre particuliers.
Est-ce que vous avez noté des différences de transactions en fonction des profils d'âge ou des pays? Et si oui, est-ce que tu as des exemples à nous donner?
Alors, il y a eu une évolution dans le temps. On peut peut-être déjà commencer par ça. Quand Vinted a été créé, ou même quand Vinted a été lancé en France en 2013, c'était surtout des femmes et des jeunes femmes, les utilisatrices. C'est-à-dire, on était sur du 18, 20, 25 ans. À l'heure actuelle, on est sur une tranche d'âge plus large, hein, puisqu'on est sur du 20, 35, 40 ans et plus. On a vu se développer, même si tout ce qui est mode adulte-femme reste la grande majorité des articles qui est mis en ligne et qui est vendu sur le site, on a vu beaucoup se développer la catégorie enfant. Et en vrai, ça fait relativement sens. On sait aussi que les enfants grandissent vite, les besoins en habillement changent aussi. La catégorie homme, c'est-à-dire on remarque qu'il y a à peu près 10% des articles mis en ligne à l'heure actuelle qui le sont dans la catégorie homme. C'est une audience qu'il faut continuer à aller chercher. Mais c'est une audience aussi, les hommes qui a peut-être un rapport aussi différent à la mode, à l'achat de vêtements, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en discussion. Et ensuite, entre pays, il y a beaucoup de similitudes. Je pense que c'est important de le noter. L'appétence pour la seconde main est là, quel que soit le marché. En tout cas, on se rend compte que dès lors qu'on propose un outil qui fonctionne, donc une application qui est facile d'utilisation, qui s'intègre assez bien dans le quotidien des gens, ça prend. Donc il y a un vrai intérêt aussi, si c'est accessible, les gens se convertissent à la seconde main. Donc il y a pas mal de similitudes sur les motivations aussi, que ce soit parce que les gens veulent une consommation plus responsable, en tout cas mettre en place des nouvelles habitudes, ou comme on le mentionnait, plutôt sur l'aspect économique, financier, donc comment économiser, comment récupérer un peu d'argent sur des pièces qu'ils ne portent plus. Donc ça, c'est assez similaire. Les différences, elles peuvent être un peu plus anecdotales, mais elles sont rigolotes. C'est davantage sur quelles sont les catégories qui fonctionnent peut-être le mieux dans certains pays que dans d'autres. On voit par exemple qu'en Italie, en Espagne, les hommes sont plus actifs que dans les autres pays. Donc pourquoi ? Voilà, c'est la question. Voilà, à quel moment dans la semaine les gens sont plus actifs sur la plateforme. Donc, par exemple, en France, on a noté que le dimanche, c'est moment...
C'est le jour des brocantes.
Ouais, peut-être. Mais par contre, dans d'autres pays, ça peut être le lundi, le mardi. Donc, c'est intéressant de voir comment les comportements et les habitudes là-dessus. Mais en vérité, c'est assez similaire. Il y a la possibilité aussi, quand on est en France... De pouvoir accéder, on va dire, au dressing des utilisateurs qui sont basés dans d'autres pays. Donc, on reste quand même assez dans les pays voisins. Ça peut être la Belgique, l'Espagne, l'Italie, par exemple. Et c'est assez intéressant parce que le retour qu'on a, c'est pas forcément la même mode, le même style, qui sont mis en ligne suivant les pays. Et ça plaît assez aussi aux gens de pouvoir aller choper un peu les marques un peu différentes dans d'autres pays.
Tu as parlé un petit peu de l'évolution des comportements d'achat et des profils ces dernières années. Est-ce qu'on peut faire un exercice sur le marché de la seconde main, un exercice un peu similaire sur le marché de la seconde main en général, depuis 15 ans? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un boom... qui est bien installé et a une accélération avec le Covid. Encore plus, je pense, récemment, avec une généralisation de la prise de conscience des enjeux climatiques. C'est qui déjà dans qui est dans le paysage concurrentiel de Vinted et quels sont vos éléments de différenciation?
C'est un marché qui est en pleine croissance, le marché de la seconde main. De manière plus générale, le marché autour des modèles circulaires. Il y a eu un rapport une étude de marché par Accenture qui indiquait que à l'horizon 2030, on envisageait une augmentation de 12% aussi de tous ces modèles circulaires. Donc c'est quand même très important, avec aussi du coup une prévision de l'impact, c'est-à-dire du nombre d'émissions, du volume d'émissions que ça pourra permettre d'économiser, qui est assez important. Et nous, on peut que le constater, en 15 ans, ça a pris une ampleur aussi, le Vinted, qui n'était pas du tout pensé pour ça à l'origine. On voit de plus en plus d'acteurs se positionner sur ce secteur du textile dans les modèles circulaires. C'est très bien parce que il y a de la place. C'est-à-dire que quand on regarde les volumes qui continuent à être produits en neuf sur l'habillement et sur le secteur du textile par rapport aux volumes on va dire brassés sur la seconde main, il y a encore un grand écart. Donc il y a vraiment de la place. Et donc la concurrence, oui, bien sûr, elle est là, mais il y a de la place. Et puis ça nous encourage aussi à toujours se remettre en question. Je pense que la remise en question, elle est très importante. C'est quelque chose, les équipes y accordent beaucoup d'importance. Tout simplement parce qu'il faut aussi continuer à être à l'écoute aussi des utilisateurs. Pourquoi la seconde main? À quel besoin ça répond? Ils ont toujours plein d'idées aussi pour améliorer la plateforme, donc on ne peut pas tout faire, c'est intéressant de suivre un peu aussi l'évolution des attentes des consommateurs. Et puis surtout, ce qui est important de mentionner, c'est que les modèles circulaires, il y en a plein. Les alternatives à l'achat en neuf, il y en a plein. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on se positionne sur le réemploi, et plus particulièrement sur le rachat à la revente. C'est notre expertise. Et c'est important qu'on se concentre sur cet aspect-là si on veut pouvoir le développer, et le développer bien, à grande échelle. Il y a d'autres modèles, la location des vêtements, le recyclage, la réparation. Et c'est des choses que d'autres acteurs proposent, et le proposent très bien. Donc c'est important aussi qu'on voit ces alternatives-là aussi se développer. La question de savoir si nous, on va se positionner là-dessus, pour l'instant, en tout cas, on se dit qu'on a encore un grand chemin devant nous pour continuer à développer la partie réemploi, la partie revente et rachat, continuer à la proposer dans d'autres pays, continuer à la développer, à attirer davantage d'audience et de public sur cette seconde main. Donc pour l'instant, ça reste l'objectif actuel.
Et est-ce que tu as des exemples concrets de ce dont tu parlais à l'instant, d'être à l'écoute un peu de l'air du temps, de ce que les gens veulent, de ce pourquoi ils vont vers la seconde main? Est-ce que vous faites des points spécifiques internes? Comment est-ce que vous faites votre veille? Et comment est-ce que vous organisez, mettez en place les nouvelles fonctionnalités? Est-ce que vous les testez? Tu parlais ça marchait dans un pays et c'était répliqué dans un autre. Enfin, vraiment concrètement, comment ça marche?
Ça marche déjà. On a une équipe en interne qui s'appelle la Research Team. Donc, comme son nom l'indique, ils font des recherches. Donc, ils interrogent très régulièrement aussi des panels de membres Vinted. Ça peut être aussi des panels extérieurs, des consommateurs qui n'utilisent pas forcément Vinted ou qui n'utilisent pas forcément la seconde main, pour essayer de comprendre justement les motivations, ce qui bloque aussi. Parfois, pourquoi les gens ne s'y mettent pas, qu'est-ce qui ne convient pas. Ça, c'est fait sur les différents marchés aussi. C'est intéressant. C'est vrai que c'est ce qui nous permet de dire qu'on reste proche aussi des besoins des utilisateurs. L'accessibilité en termes de prix est très importante, mais quand on dit prix, c'est pas seulement le prix des vêtements qui sont proposés en seconde main sur la plateforme, c'est aussi tout simplement voilà, l'accès à la protection acheteur, c'est-à-dire à ce système sécurisé aussi sur la plateforme. Il faut qu'il reste accessible. Donc à l'heure actuelle, on est sur 70 centimes et 5% du prix de l'article. Ça reste très accessible et ça permet vraiment d'avoir accès à davantage de, voilà, de protection aussi pour encadrer ces transactions. Ça reste aussi tout simplement le prix abordable de la livraison. Comme on le mentionnait, il peut y avoir des articles qui sont vendus pour des... Voilà, quelques euros. Donc, s'il faut l'envoyer, il faut s'assurer aussi que tout d'un coup, la livraison ne devienne pas plus chère. Donc, c'est un gros travail aussi de s'assurer que cette partie-là reste abordable. Parce qu'on sait que si tout d'un coup, le prix d'utilisation de la seconde main devient trop élevé, malheureusement, ça ne va pas être possible pour tout le monde. Aussi. Donc ça, c'est important. On entend aussi beaucoup, voilà, quand on revient sur la partie consommation responsable, on a toujours entendu dire que ah bah, c'est cool, la seconde main, Vinted, c'est écologique. Et nous, en interne, on était, intuitivement, oui, bien sûr, c'est meilleur. C'est une meilleure solution, c'est une meilleure alternative à l'achat en neuf, mais la quantifier, c'était important. Et c'était aussi le but du rapport qu'on a sur l'impact sur le climat de Vinted qu'on a sorti. C'était important de pouvoir quantifier, qualifier cet impact d'un achat en seconde main sur Vinted par rapport à un achat en neuf. Et puis de quantifier l'impact net global de la plateforme, de nous en tant qu'entreprise, pour pouvoir ensuite aller confirmer ça auprès des utilisateurs, les informer et leur confirmer que oui, c'est une meilleure alternative. Donc ça, c'est très important de se dire si ça compte pour les utilisateurs. Et on a vu sur l'étude qui a été réalisée qu'il y a plus de 20% des gens pour lesquels la seconde main, c'est de toute façon un premier choix. Et c'est plutôt très encourageant. C'est-à-dire que même si l'article existait exactement le même, en neuf, au même prix, il choisirait quand même de l'acheter en seconde main. Donc c'est un début, mais c'est un début très encourageant. Mais du coup, il fallait qu'on puisse confirmer aussi à ces gens-là que oui, c'est pas seulement vous qui le pensez, c'est la réalité. Donc les recherches sont faites, et puis l'important, c'est de voir comment après on le transmet sur la partie plus produit, donc la partie plus application. Une des récentes fonctionnalités qui a été intégrée, c'est de pouvoir filtrer par matière. C'est-à-dire que si on est capable de dire, OK, ces matières-là sont plus durables, elles vont durer plus dans le temps, c'est de la plus grande qualité, comment on fait pour s'assurer que les utilisateurs puissent filtrer et rechercher ces matières-là aussi sur le site ?
C'est génial parce que ça participe aussi à l'éducation, juste à l'éveil, tu vois, et la curiosité de retourner une étiquette sur le prochain vêtement qu'on achète en se disant « Ah tiens,
j'espère.
Est-ce que c'est mixte ?» Oui. Ça j'ai bien aimé, ça j'ai beaucoup moins transpiré que dans ma robe en polyester.
Exactement.
Peut-être que ce sera le meilleur choix pour l'achat d'après. On va parler du rapport d'impact, bien sûr, juste avant, pour finir sur un peu l'évolution du marché et de l'offre de seconde main de ces dernières années. Tu l'as dit, malheureusement, pour l'instant, la montée en puissance de la seconde main n'est pas corrélée à une baisse du nombre de produits neufs mis en marché. Et malheureusement, ce n'est pas encore sur le point de changer. Est-ce que vous avez remarqué ces dernières années, et je pense particulièrement à l'ultra fast fashion, une baisse de la qualité des produits qui sont proposés sur la plateforme et est-ce que vous avez une politique particulière aujourd'hui ou prévue eut égard à ces vêtements qui sont de très mauvaise qualité et qui, globalement, dont on peut dire qu'ils ont peu de valeur sur un second marché.
C'est une grosse question. C'est une grosse question parce que, effectivement, à l'heure actuelle, sur Vinted, il peut y avoir toutes sortes de marques qui sont mises en ligne. Et ça peut être des marques plus, on va dire, bas de gamme, comme il peut y avoir aussi de plus en plus, au final, des gens qui mettent en ligne des articles beaucoup plus premium, soit des marques un peu plus luxe, on va dire. Donc, tout est possible. Je pense que alors déjà il y a de se dire que nous notre objectif c'est pas d'aller contrer directement l'industrie de la production textile en neuf. Notre objectif c'est de s'assurer que ce qui est déjà produit ne finisse pas en déchets. Et qu'il y a une option, qu'il y ait un outil et une plateforme qui puisse permettre facilement de rallonger la durée de vie de ces vêtements qui sont de toute façon déjà là. C'est la question aussi quand on parle de fast fashion, si demain on autorisait plus aussi les vêtements qui sont qualifiés de fast fashion sur le site, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que les gens vont arrêter de les acheter? C'est pas certain. Qu'est-ce qui va arriver à ces vêtements-là qui seront achetés? Ben, on ne sait pas. Donc, c'est un peu à double tranchant à l'heure actuelle. L'objectif en tout cas l'espoir qu'on a, c'est que en développant la prise de conscience autour de la seconde main, de l'occasion, et ça s'applique aux vêtements comme ça s'applique à tous les biens de consommation, je pense, qu'on arrive à accompagner une prise de conscience autour de la valeur de l'objet. Si je sais que en achetant un vêtement, je vais avoir la possibilité assez simple de le revendre aussi à terme quand je l'aurai utilisé, mais que j'en aurai plus besoin. Et ben peut-être qu'à l'achat initial, de préférence en seconde main, je vais décider d'investir. Oui. D'investir dans des matériaux plus durables, dans de la meilleure qualité, parce que je sais qu'il y aura, ça va me permettre que le vêtement garde sa valeur aussi dans le temps. Si ce changement aussi, cette prise de conscience, ce changement vraiment de mentalité se fait à très grande échelle, peut-être que là, mais on parle forcément à plus long terme, oui. On va commencer à y avoir un impact, mais qui viendra des consommateurs sur la production et le textile en neuf. Donc c'est on l'a mentionné, comment sensibiliser, comment continuer à informer. Éduquer, je ne sais pas, j'aime pas trop ce mot-là. On n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Je pense que c'est très important. Nous-mêmes, on continue de grandir, on évolue en permanence, on réfléchit en permanence. Donc c'est important cette sensibilisation pour accompagner un vrai changement d'appréciation sur le vêtement qu'on achète et le regarder d'une manière différente, l'envisager d'une manière différente, pas seulement sur « ok, je l'achète demain, je le porte, ensuite, peu importe », mais vraiment d'essayer d'avoir une réflexion sur le plus long terme, sur la conscience de ce qu'on achète.
Oui, c'est juste, enfin, tu l'as dit, je pense qu'il ne faut pas avoir du tout une approche... binaire, manichéenne, le neuf c'est mal et la seconde main c'est bien, et que c'est une démarche éducationnelle. Moi je vois ça plutôt de façon positive et pas punitive ou dans la restriction.
Dans ce cas-là, oui,
mais,
il y a pas de problème.
Mais de sensibilisation en tout cas. Après, effectivement, ça vient du consommateur et ça peut être massif, et je pense que la raison pour laquelle toutes les marques... développe aussi une offre de seconde main en propre, c'est qu'elle se rend compte de l'engouement. Mais à mon avis, c'est pas un vœu pieux tant que ça, puisqu'il y a quand même une convergence dans le bon sens de la législation qui va pousser l'affichage environnemental, qui devrait nous donner vachement plus d'infos sur les fiches produits et donc aider encore les consos à avoir une meilleure connaissance de ce qu'ils portent et de ce qu'ils achètent. Et puis les marques elles-mêmes, dont pas toutes, mais certaines font quand même de plus en plus d'efforts. Donc, espérons que ça amène à une offre de seconde main qui soit plus qualitative et une circularité qui est une logique de consommation et non plus un chemin, une voie collatérale, on va dire.
Oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est forcément l'action de plusieurs acteurs qui va devoir se combiner. On a... fait, c'était en fin d'année dernière, on a travaillé avec le service d'information des gouvernements sur une campagne pour mettre en lumière les gestes utiles. On sait que c'est un enjeu important des pouvoirs publics, on va dire. Et c'est important aussi ce travail, mais sur plusieurs facettes, avec plusieurs acteurs. Et que d'autres marques se mettent sur le secteur de la seconde main, je pense que c'est très utile. Oui, parce qu'il y a un engouement, mais parce que, comme on le disait, ça répond à des besoins et à une envie aussi. À des besoins, mais aussi à une envie et une prise de conscience sur l'empreinte écologique du secteur textile. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, mais c'est des facteurs déjà existants qui ont pris, malheureusement, encore plus d'ampleur et qui ont été accentués par les événements ces dernières années. Que ce soit la pandémie qui a quand même mis en lumière l'impact des activités humaines, mais aussi tout simplement les crises économiques, l'inflation qu'on subit tous aussi. Donc la question du prix, elle revient sans cesse, oui. Elle est très importante. Donc tout ça fait qu'il y a toujours plus d'acteurs qui s'y mettent. Et on peut pas ne pas être d'accord avec ça, bien évidemment.
On va parler concrètement du rapport d'impact, des chiffres. Parce qu'il y a plein d'enseignements hyper riches. Est-ce que tu l'as un tout petit peu évoqué, mais nous rappeler vraiment au départ l'origine de l'initiative et le but de ce rapport?
Alors, le but du rapport sur l'impact du climat, il est double. Le premier, c'était de pouvoir réellement quantifier. Quand on achète un vêtement de seconde main sur Vinted, pourquoi c'est mieux ? Pourquoi c'est une meilleure option de quantifier cet impact par rapport à l'impact d'un achat d'un vêtement en neuf ? Ce qu'on a constaté, c'est que en moyenne, quand on fait un achat en seconde main sur Vinted, ça nous permet d'économiser 1,8 kg de CO2, donc d'émissions carbone, par rapport à l'achat de ce même vêtement en neuf. Ensuite, il était de comprendre à plus grande échelle l'impact net réel au global de la plateforme et de nous, Vinted, comme entreprise aussi. Et ce qu'on a réalisé, c'est que à l'échelle de toute la communauté, donc de ces 80 millions de membres, de ces 19 marchés, en 2021, la communauté a permis d'économiser plus de 453 kilotonnes d'émissions carbone. C'est un gros chiffre. Ça paraît être un gros chiffre. Pour le traduire, c'est l'équivalent... c'est comme si on retirait 325 000 voitures des routes de l'Union européenne pendant un an. Donc c'est tout ce qui a été économisé simplement par le fait de faire des achats en seconde main sur Vinted pendant un an. Donc c'est très important. Et ce qui était très important, c'était de pouvoir mettre des données concrètes, de la data concrète, derrière cette affirmation que la seconde main était une meilleure option pour le climat, avant d'aller le communiquer auprès des consommateurs. C'est très important. Et puis, avant de pouvoir commencer, nous, sur la stratégie. C'est-à-dire qu'actuellement, maintenant qu'on a ces données, il y a des discussions en interne pour quelles sont les prochaines étapes, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place, qu'on va adopter pour continuer à réduire aussi nos émissions. C'est très important. Donc, cette information, cette sensibilisation aussi des consommateurs, elle peut se faire que si on a la certitude que effectivement ce qu'on avance est réel. Et donc, le résultat le plus important de cette étude, c'est de pouvoir dire oui, un achat en seconde main sur Vinted, c'est un meilleur choix pour le climat qu'un achat en neuf pour le même vêtement.
Alors, est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte de l'étude et particulièrement en ce qui concerne la méthodologie ? Parce que c'est vrai qu'effectivement, ces chiffres sont hyper positifs et impressionnants, ils sont à remettre dans un contexte temporel et géographique sur un échantillon de personnes ou de transactions qui ont été étudiées. Et ils sont d'autant plus crédible que le nombre de transactions est important. Vous avez fait un travail assez énorme et sur un échantillon sans précédent en termes de taille, aux côtés d'un organisme auditeur tiers, je crois, pour valider ces résultats. Donc, je veux bien avoir dans le détail la méthode du rapport.
Absolument. Et je vais essayer de faire honneur aussi à notre équipe Sustainability en interne, parce que le crédit leur revient quand même beaucoup.
On salue Isabelle.
Voilà, on salue Isabelle, on salue Marianne, Valérie, l'équipe grandit. Et puis, cette équipe et puis toutes les autres équipes, parce que ça a été vraiment un engagement aussi même de l'équipe de management, l'équipe dirigeante sur ce sujet. Il y a eu plusieurs... c'est un projet qui est sur la table depuis plusieurs années. Donc, le rapport, ce qui est important, c'est que c'est une analyse complète et indépendante, comme tu l'as mentionné, qui a été menée par une start-up qui est spécialisée dans les technologies climatiques, qui s'appelle Vayu. Ils ont utilisé un outil qui s'appelle l'analyse du cycle de vie conséquentiel. Donc, ce que ça veut dire, pour parler en termes plus simples, c'est qu'en s'appuyant sur les données des transactions, ils vont pouvoir quantifier l'impact environnemental, donc mesuré en CO2, des produits et des services en tenant compte de toutes les étapes, c'est-à-dire depuis la fabrication du produit, son transport, comment il arrive aussi au consommateur. Donc c'est vraiment une analyse très complète qui prend en considération toute la vie du produit. Là où l'étude, elle devient... très intéressante et un peu unique en son genre, c'est qu'avec cette étude, on a construit le plus grand ensemble de données primaires qui existe. Donc en fait, c'est la plus grande étude réalisée à ce jour sur la seconde main en ligne. Et pour ça, Vayu a examiné plus d'un demi-milliard de transactions sur l'année 2021, donc c'est assez énorme, sur l'ensemble des marchés où on opère. Et ils ont interrogé aussi plus de 350 000 utilisateurs Vinted à travers 8 de nos marchés principaux. Donc, c'est des échantillons des tailles d'échantillons qui sont sans précédent à l'heure actuelle et qui nous permettent d'être confiants aussi dans ces résultats qui sont sortis. L'étude, même sur interroger 350 000 utilisateurs, ça nous a permis d'avoir aussi des informations, parfois même des surprises aussi sur quelles sont leurs habitudes de consommation, quelles sont leurs habitudes quand ils vendent et qu'ils achètent sur Vinted. C'est très instructif et ça nous permet aussi du coup d'aller ensuite voir l'ensemble des utilisateurs et leur dire regardez. De par vos habitudes de consommation, vous avez vraiment participé aussi à ce résultat final qui est la réduction de l'impact aussi qu'on a pu constater et à encourager d'autres à adopter aussi ces mêmes habitudes. La seconde chose, c'est que le mot-clé, c'était la transparence. Donc, l'étude, elle est longue, c'est plus d'une centaine de pages, etc. Mais elle est disponible dans son intégralité pour tout le monde. Et on a aussi créé des résumés qui sont beaucoup plus accessibles aussi, parce que même pour moi, les 100 pages de l'étude, c'est très technique, mais c'était important que ce soit accessible par tous et que ce soit fait en transparence, puisqu'il y a des résultats très satisfaisants, très encourageants, et puis forcément, ça met aussi en lumière les zones qu'on peut continuer à améliorer.
On mettra les liens dans les notes, mais effectivement, il y a une version digest aussi qu'on peut télécharger d'une quinzaine de pages. Méthodologie quantitative, tu en as parlé avec vraiment les mesures de l'empreinte carbone. Qualitative, donc c'était des questionnaires que vous avez envoyés, c'est ça, aux différents membres.
Absolument.
Est-ce que tu peux nous parler donc des outils de mesure, peut-être sur vraiment la partie quanti? Et en particulier, tu as parlé de l'analyse du cycle de vie, mais faire peut-être un petit highlight sur le transport, le packaging. Qu'est-ce que vous avez mesuré et qu'est-ce que vous avez découvert?
Oui. Sur la partie, donc, il y a eu beaucoup de questions. Les questions qui ont été posées aux utilisateurs, elles étaient très diverses. Comme tu le mentionnes, ça a pris en compte aussi tout ce qui est la question transport-emballage. parce qu'on savait aussi intuitivement que ben, le transport, tout simplement, c'est aussi ce qui pèse le plus lourd dans nos émissions quand même carbone.
Donc ça, ça a été validé par l'étude. C'est le oui, point principal,
oui, oui, absolument.
La source d'émission principale.
C'est la source d'émission principale. Je pense que c'est, on le savait, et c'est important de le quantifier, mais c'était important d'aller plus loin que ça. On le savait, mais c'était important de le prendre en compte, justement pour que l'analyse soit complète. Mais il s'avère que le résultat final, c'est qu'en prenant en compte tous ces aspects, donc l'emballage, le transport, on a quand même pu démontrer, l'étude a quand même pu démontrer, que cet achat en seconde main, il reste quand même de toute façon meilleur pour le climat que si on l'avait acheté en neuf, c'est-à-dire que l'impact est réduit. Donc ça, c'était très important aussi de le valider, parce que c'est une question qui revient naturellement souvent. Sur les emballages, et ça, c'est la petite donnée surprise pour moi personnelle, parce que l'emballage, on a constaté qu'il y a 62% des emballages des colis Vinted qui sont en fait des emballages réutilisés, alors que ces emballages-là, au départ, ils avaient un usage unique. Ils étaient prévus pour un usage unique. Pourquoi ça m'a fait rigoler? Parce que ça m'a fait penser à tous ces parfois emballages un peu farfelus, inattendus, que les gens partagent sur les réseaux sociaux, les boîtes de pizza, les boîtes de céréales, etc., etc. Et en fait, j'ai réalisé que c'était loin d'être qu'une habitude rigolote et farfelue, mais que ça avait un vrai impact, parce que ça, l'étude a quantifié que ça permettait de réduire de 70% l'impact de ces matériaux d'origine d'emballage, le fait tout simplement par le fait de le réutiliser. Donc, c'est plutôt, plutôt... Pour moi, c'était en tout cas une surprise. Et je ne suis pas sûre que les gens aient conscience que ce système de réutilisation des emballages, certainement, il est pratique, certainement, il est économique, mais il a un impact positif qui est loin d'être insignifiant. Donc, quand j'entends ma sœur ou mes amis dire au bureau, tous les emballages qu'on reçoit, on les garde parce qu'on veut les réutiliser après à la maison pour envoyer les colis Vinted, je dis oui, continuons comme ça, continuons de le faire, c'est très important. Donc, ça paraît peut-être des petites choses, mais ce n'est pas des petites choses. Mmh. Et si on arrive à dire aux gens, regardez, en faisant ça, l'impact que vous pouvez avoir, l'influence que vous pouvez avoir aussi, comment on peut amener plus de gens aussi à avoir ces bonnes habitudes, c'est intéressant. Comment aussi on peut continuer à développer, parce qu'on a même poussé l'étude plus loin au niveau du transport et se dire comment les gens se rendent au point relais. Voiture, vélo, à pied. Comment, du coup, avec ces données-là, on peut leur dire, dans la mesure du possible, le vélo, où il y a la pied, c'est bien. Si vraiment la voiture, c'est indispensable, peut-être combiné avec d'autres trajets. Tout ça, c'est des petits pas, c'est des petits choix individuels, mais au final, le rapport montre que, mis bout à bout, ces choix-là individuels, ils ont un impact global qui devient assez... assez positif, assez important.
Mais quand tu t'adresses à 80 millions de personnes, oui. J'ai l'image de 80 millions de boîtes de céréales recyclées. Non, mais tu vois, c'est vrai que... Et je dirais même de façon pas si anecdotique que ça participe à l'expérience utilisateur, parce que c'est vrai que il y a un petit sel en plus quand tu reçois un colis Vinted, tu sais que c'est un autre être humain qui l'a impacté. Parfois, il y a un petit mot, il y a des petits cœurs, et puis après, tu laisses ta petite note. Enfin, c'est une autre expérience. Évidemment, les marques font ce genre d'efforts aussi, mais c'est vrai que le côté pre-loved, déjà, est trop cool. Le fait de se dire, ça a été porté, aimé, et ensuite, le fait de le recevoir et de le déballer avec toute la curiosité de l'emballage, en plus de savoir que c'est écologiquement vertueux, c'est quand même super cool. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que toi, tu mets ça en avant dans ta com? Oui. Est-ce que sur Vinted, il pourrait pas y avoir, tu vois, des petites fenêtres ou une pop-in qui te dit « By the way, est-ce que tu savais que si tu allais l'emmener au point de dépôt ou aller chercher au point de relais à pied, c'était vachement... » Enfin, c'est encore plus bénéfique, on va dire, sans être dans la comparaison ou la culpabilité. Et pareil, n'hésite pas à garder des emballages, tu vois. Enfin, c'est comment est-ce que tu transformes cette data, ce que vous avez recueilli en messages simples et intelligibles pour les faire passer à 80 millions de personnes. C'est énorme.
C'est énorme et c'est une très bonne question. Je pense
là,
que...
je te challenge sur la partie communication.
Oui, non, bah, et puis c'est la mienne en plus. Donc, alors après, c'est la communication, c'est les équipes marketing, ils vont y travailler, hein, ça va être leur rôle. Mais bon, c'est déjà, dans un premier temps, l'étude, elle a été sortie en fin mars, donc c'est très récent. Mmh. Donc déjà, elle est rendue publique, elle est là, l'important c'est de l'expliquer. Actuellement, il y a eu une campagne sur ces deux derniers mois, sur différents formats aussi, pour justement présenter cet impact aux utilisateurs. Donc, les informer. Le message clé, et c'est ce message-là qu'il faut d'abord faire passer, ne pas perdre de vue, c'est la seconde main sur Vinted, c'est un meilleur choix pour le climat, pour le porte-monnaie aussi, que l'achat en neuf. Donc ça, c'est le message clé qu'il faut faire passer. Et puis après, il va y avoir des réflexions sur, dans le détail, sur les données, les différentes habitudes, comment on peut les véhiculer encore plus. Dans tous les cas, maintenant que nous, on a cette certitude et cette confirmation par Vayou que voilà, encourager la seconde main, ça fait partie aussi des choses qu'on peut continuer à dire et qu'on peut continuer à faire, qu'on peut continuer à encourager. On peut avoir aussi des campagnes qui mettent en avant la seconde main dans des contextes où on l'attend pas, où c'est pas encore un réflexe. On en entend tellement parler de la seconde main qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est complètement acquis, mais en vrai, il y a encore des situations, des occasions où on n'y pense pas. Hein. Même moi, ce n'était pas forcément quelque chose qui me traversait l'esprit. Donc, c'est important aussi de ne pas perdre de vue ça, c'est-à-dire comment on peut encore amener d'autres utilisations de la seconde main. Tout simplement, un exemple qui me traverse l'esprit, c'est en fin d'année dernière, on a fait pas mal de communication autour des cadeaux. Fin d'année dernière, c'était autour des fêtes de fin d'année, Noël, etc. Mais au final, on parle anniversaire, on est en plein dans les fêtes des mères, fêtes des pères, etc. Donc, les cadeaux de seconde main, moi, je ne sais pas toi, mais en l'occurrence, ce n'était pas forcément quelque chose qui m'était venu à l'esprit. Et puis, au final, on se rend compte que, ben, pourquoi pas ? Parce qu'il y a plein d'avantages, c'est plus économique, on peut trouver des cadeaux de bien meilleure qualité qui sont assez uniques aussi. Pas tout le monde va avoir. Donc, c'est important d'amener cette réflexion, de la pousser, même pas seulement sur le quotidien, mais sur d'autres occasions. On a fait aussi des... C'est quelque chose qui fait sourire, mais les mariages en seconde main, ça paraît... Il y a plein de robes de mariée sur Vinted. C'est pas si anecdotique que ça. Donc, c'est encore toute une partie communication à développer. Et puis, on le mentionnait plus tôt aussi, comprendre sur certains publics pourquoi c'est pas encore non plus si accepté je disais par exemple une audience plus masculine ou comment on peut encore simplifier aussi ce rapport là donc il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'options. Mais continuer à informer, sensibiliser, continuer à partager les données qu'on a aussi, et la connaissance qu'on peut avoir sur le secteur de la seconde main, c'est très important, et pas seulement avec les consommateurs, mais avec différents partenaires, différents acteurs aussi du secteur. C'est pas seulement à viser les consommateurs. Les consommateurs, bien sûr, mais il y a plein d'audiences qui peuvent être intéressées aussi par ces données, et c'est important qu'elles puissent y avoir accès.
Oui, tu as un accompagnement vraiment dans la transition du modèle au global de l'industrie de la mode et de notre manière de consommer.
Même sur la logistique, par exemple.
Je mettrai le lien vers l'étude Accenture qu'on a synthétisée, à laquelle vous avez participé, qui traite effectivement de la mode circulaire en général, qui a été commandée par la Fédération de la mode circulaire. Mm-hmm. Vous avez eu quelques résultats aussi hyper intéressants sur les habitudes d'achat des consommateurs, eu égard aux achats compulsifs ou à la façon dont Vinted peut devenir un réflexe qui permet d'éviter un achat neuf. Tu peux nous parler un petit peu de ces résultats ?
Oui, bien sûr. Ce qui est important de savoir, c'est que pour cette étude, les achats qu'on dit compulsifs ont été pris en compte. Et que, on le rappelle, même en prenant en compte ces achats compulsifs, le résultat net global, c'est que dans son ensemble, sur une année, il y a eu plus de 450 kilotonnes d'émissions qui ont été économisées. Donc, ça veut dire que si achat compulsif il y a, il est toujours préférable qu'il se fasse en seconde main. Ce que ça a montré aussi, c'est que ces achats compulsifs, ils n'étaient pas forcément liés à Vinted. Ça veut dire que ce sont des gens, si Vinted n'existait pas, ils auraient probablement, de toute façon, acheté ou fait ces achats ailleurs. Plateforme de seconde main ou en neuf, et l'achat se serait probablement concrétisé dans tous les cas. Ce qu'on a vu aussi, c'est effectivement ce qu'on appelle le taux de remplacement. Et que pour plus de d'un tiers des transactions qui sont effectuées, donc des achats qui sont effectués en seconde main sur la plateforme, remplacent un achat en neuf. Donc c'est pas anodin. C'est déjà plus d'un tiers qui permettent de remplacer un achat en neuf. Et comme on le disait aussi, on a plus de 20% des utilisateurs, même 23%, c'est même plus que ça en France, qui de toute façon vont préférer la seconde main quoi qu'il arrive quand ils vont décider de faire un achat sur un vêtement.
Et ça, est-ce que tu saurais lister par raison prioritaire lister les raisons prioritaires qui font qu'on choisit en premier la seconde main. Donc, on a parlé probablement du facteur économique en premier. Est-ce que la conscience écologique, c'est juste après
oui.
Ou...
Ouais. Oui. Surtout pour ces 23% de gens en France qui décident la seconde main, c'est un engagement. C'est la croyance, mais même plus que la croyance, c'est-à-dire de se dire... c'est un vrai engagement. Donc, c'est la vraie consommation responsable. C'est très encourageant. Je veux dire, notre mission, c'est de faire de la seconde main le premier choix. Donc, si on a déjà 23% des gens qui font vraiment de la seconde main le premier choix, pour nous, c'est que encourageant. Ça veut dire qu'on peut vraiment avoir cet impact-là. Et comment on continue à faire croître ce chiffre, c'est tout l'enjeu aussi. Mais je ne trouve pas peut-être le mot, ce n'est pas la croyance, mais en tout cas, c'est un vrai désir de se dire je m'engage et je sais pourquoi je vais vers la seconde main, quoi qu'il arrive. Puisque comme on le disait, pour ces gens-là, ça veut dire... ce n'est pas une question de prix, puisque même si en neuf, le prix était le même, ils iraient quand même vers la seconde main.
Oui.
Donc, c'est autre chose.
C'est hyper intéressant parce que j'ai la sensation que le motif donc de mesure d'impact et le motif climatique vous donne la possibilité, en tout cas de ma perception de membre Vinted depuis des années, de rentrer plus en contact avec les membres et les consommateurs sur la plateforme. Je m'explique, comme vous êtes une entité digitale et une appli,
oui.
Quand tu vas sur d'autres concurrents dans le tourisme, par exemple, c'est très impersonnel, c'est très froid. Tu as une appli ultra tech, ultra bien ficelée et tu as au mieux un chatbot si tu as des questions à poser, sinon une FAQ à dérouler, mais il y a peu de contacts. Et là, il y a plein d'opportunités de rentrer via des outils de communication, que ce soit sur les résultats ou sur les mises en action qui en découlent, de rentrer en contact avec les membres et de vous de personnaliser, de personnifier peut-être l'entité Vinted. Je ne sais pas si tu le perçois de cette manière, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Je mets un visage humain et un peu plus de proximité entre la plateforme et moi.
C'est intéressant comme réflexion. Je pense que effectivement, on est une application, donc et il y a une raison pour laquelle on est une application, parce que tout simplement c'est beaucoup plus pratique. C'est ce qui génère le plus de trafic. On peut aussi avoir accès sur l'ordinateur tout simplement, mais c'est le fait que ce soit disponible comme ça, la seconde main en quelques photos, en quelques clics, en quelques mots de description sur le téléphone, c'est bien sûr que ça participe à la rendre tout d'un coup beaucoup plus ancrée dans le quotidien des gens. Le fait que ce soit une application, est-ce que ça veut dire qu'on ne personnifie pas? Peut-être. Je pense qu'on essaye quand même de communiquer. On a beaucoup communiqué notre mission. Je pense que tout le monde a vu, par exemple, les publicités à la télé, etc. aussi. Mais sur des messages comme ça, dont on sait qu'ils sont importants, qu'ils sont capitaux même, que ils vont parler et qu'ils vont, ils vont pouvoir nous permettre aussi de mettre en avant, nous, les valeurs qu'on veut véhiculer. On a toujours été très prudents sur ces messages-là parce qu'on n'avait pas à la donner et qu'on ne se sentait pas peut-être légitime à aller clamer haut et fort qu'on était écologique ou qu'on était la solution à tout. On n'est pas la solution à tout, de toute façon, sans avoir ces données-là. Et maintenant, d'avoir ces données qui nous confortent aussi dans cette réflexion, forcément, ça ouvre plein de portes pour aller dire aux consommateurs. Et encore, c'est sensibiliser, informer, mais il y a quelque chose qui a beaucoup circulé en interne, c'était célébrer aussi ces consommateurs, ces utilisateurs de Vinted. Sans les utilisateurs, sans ces particulières-là, Vinted n'existe pas. C'est eux qui engagent sur la plateforme, c'est eux qui mettent en ligne les vêtements, c'est eux qui font les transactions. Enfin, c'est très important. Nous, on est là pour fournir, on va dire, l'outil, la plateforme, la sécurité, etc. Mais c'était de pouvoir aller les dire, ben bravo. Et allons-y, on va encore faire mieux. Il faut qu'on fasse mieux. C'est important. Après, bien sûr, il y a la réflexion plus pareil sur nous en tant qu'entreprise, dans nos opérations. Comment on s'assure qu'on continue de réduire nos émissions aussi, c'est très important aussi. Donc, il y a aussi une autre audience qui sont les employés, les gens qui travaillent. Hein. Nous, les équipes en interne, c'est très motivant aussi de voir ces résultats-là. Donc oui, forcément, ça ouvre beaucoup de portes parce que ça nous permet de dire ce qu'on avait envie de dire depuis longtemps, mais qu'on ne se sentait pas permis de dire sans avoir la donnée.
Alors, est-ce que tu peux, de façon synthétique, nous donner ta liste de recos pour avoir un comportement d'achat responsable sur Vinted ?
Oui. Alors, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a mentionné, les petits choix, les petites habitudes à avoir qui changent aussi les choses, donc en termes de réutilisons nos emballages, apportons les colis en point relais, etc., je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont disponibles aussi sur l'application. On peut pas tous les lister, mais on a parlé du filtre par matière. Donc, regardez si vous pouvez privilégier certains matériaux, le lin, le cachemire, la laine, c'est des matériaux qui durent dans le temps, qui gardent la valeur du vêtement aussi. Et c'est quelque chose qui est maintenant faisable. Il y a la possibilité tout simplement aussi d'acheter en lot sur Vinted, ça permet tout simplement de ne pas démultiplier la livraison. Et puis, les réflexions, si je veux acheter un nouveau vêtement, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je vais le porter plus d'une fois ? Si la réponse à ces questions est oui, est-ce que je peux le trouver en seconde main, d'abord ? C'est important. Comment ensuite on prend soin de ses vêtements, je pense que c'est très important. Et une fois que on a vraiment fini d'aimer ce vêtement et de le porter, qu'est-ce qui se passe avec ce vêtement ? Est-ce qu'il va pas pouvoir servir à quelqu'un d'autre ? Et dans ce cas-là, quelles sont les options ? Je pense que maintenant c'est très facile de trouver l'option qui nous correspond. Bien sûr, on est Vinted, on parle revente, rachat, mais est-ce que vous pouvez pas le faire réparer pour pouvoir continuer à l'utiliser ? J'ai un jean là qui vient de craquer. Je pense qu'il va falloir que je le fasse réparer aussi. Il faut que je trouve comment le faire. Mais comment on peut le faire recycler ? Enfin, il y a plein d'options et l'option revente, elle est maintenant elle est vraiment simplifiée. Donc, je pense que tout ça, ça retrace un peu la vie du vêtement, mais c'est très important. Le but, c'est vraiment de pouvoir prolonger la durée de vie, le cycle de vie de ces biens de consommation, dont les vêtements, dont les accessoires de mode, dont les chaussures qui sont là et qui peuvent servir à quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Oui, il y a cet aspect communautaire aussi. Tu l'avais mentionné avec les petits mots parfois qu'on récupère dans les colis. C'est vraiment le plus aussi de cet aspect un peu communautaire. Mais ça fait partie des bons commandements, on va dire.
Oui, tout à fait. Il y a une option, moi, que j'aime beaucoup, enfin, qui est simple, mais c'est celle du like sur un produit parce que
oui.
Souvent, la seconde main, je trouve que c'est une quête. Il y a un truc hyper magique quand tu vas chiner, quand tu vas en brocante. Moi, j'ai été éduquée à ça. Donc, depuis que je suis enfant, trouver quelque chose en boutique physique à l'époque, c'est comme trouver un cadeau qui t'attendait là et voilà, qui était fait pour toi, dans la taille qu'il fallait, la bonne couleur, etc. Donc, il y a cette petite saveur supplémentaire de savoir en plus que c'est un produit unique. Et pour recréer un peu cette expérience en digital, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'offre, elle est pléthorique sur Vinted, donc tu as quand même de fortes chances de trouver ce que tu veux. Mais j'aime bien l'idée de me dire, bah, je mets un cœur, c'est pas le moment, je ne suis pas certaine d'avoir absolument besoin ou envie, je vais l'oublier. Puis si dans 3 semaines, je m'en rappelle et que je retourne sur la plateforme et qu'il est vendu, bah, c'est qu'il n'était pas pour moi. Et puis s'il est encore là et qu'il m'attend, c'est que peut-être j'aurais cultivé le désir pour l'objet que j'aurais envie d'acheter avec un peu plus de conscience et de fait de garder un peu plus longtemps. Enfin, c'est un micro conseil.
C'est absolument comme ça qu'il faut l'utiliser.
Mais voilà. Et ça, et je dirais peut-être aussi, tu parlais des matières, prendre l'habitude de vraiment détailler ces fiches produits, entre guillemets, c'est-à-dire quand on met un produit en ligne, et de la même manière, demander aux gens à qui on souhaite acheter un produit, bah, montrez-moi l'étiquette de composition, est-ce qu'elle existe encore, par exemple.
Oui, surtout qu'il faut rappeler qu'on peut, vraiment poser les questions aux vendeurs aussi, hein, même particuliers à qui on veut acheter, donc il ne faut pas hésiter à poser les questions dont on a besoin.
Voilà, donc merci beaucoup pour ces infos. On mettra aussi le lien du slider dans lequel on a répertorié une quinzaine de conseils justement pour des achats qui sont plus vertueux en seconde main. De ce rapport, enfin ce rapport est un peu le premier levier vers une stratégie RSE qui va se déployer. Ça, vous allez l'annoncer dans l'année qui vient, pour l'instant
Dans les prochains mois, oui. C'est en cours de développement. C'est important d'avoir le rapport d'abord.
Oui, bien sûr.
Pour pouvoir baser la stratégie, commencer à y réfléchir. Donc oui, c'est va être le travail maintenant des équipes en interne pour développer cette stratégie.
Tu nous as, par contre, hier lors de l'échange, vous avez mentionné la présence de bureaux donc en Lituanie qui avait été, pour ce qui est des émissions du scope 1, en tout cas, refait avec beaucoup d'attention en ce qui concerne l'impact environnemental. Ça, je veux bien que tu nous en parles un peu. Et surtout, je serais ravie d'avoir une ou deux photos de l'endroit pour voir à quoi ça ressemble.
Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On a les photos. C'est un vrai bureau assez chouette qui s'étale sur plusieurs étages. Non, sans problème. Oui, du coup, y a forcément, la stratégie, elle va être en cours sur ce qu'on peut faire, tant nous, au niveau de l'entreprise, que aussi pour encourager de nouvelles habitudes de consommation à plus grande échelle. Mais sur l'aspect plus entreprise, plus opérationnel, on n'a pas attendu non plus l'étude pour s'y mettre. Le siège social en Lituanie a été créé pour Vinted. Ça fait partie des bureaux les plus éco-responsables aussi de Lituanie. Par exemple, on a réutilisé les meubles qu'on avait dans les anciens bureaux. Les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux naturels, durables. Les moquettes sont faites en jeans recyclés, denim recyclés par exemple. Au-delà de ça, il y a pas mal de choses qui sont faites sur la réduction d'utilisation du plastique. Il y a une cantine qui essaye tant que possible d'utiliser aussi des produits locaux. Sur les bureaux, dans les autres pays qui n'ont pas forcément été construits, pensés pour Vinted, on essaye quand même de faire en sorte, le tri des déchets, c'est important. L'électricité est renouvelable. Et à côté de ça, on en a parlé, le transport, même si l'étude montre que en comptant le transport et l'impact du transport et de la livraison, y a quand même une réduction d'impact significative sur l'achat en seconde main par rapport au neuf. Le fait d'avoir créé aussi l'année dernière l'entité logistique Vinted Go, ça va nous permettre aussi à long terme d'avoir plus de contrôle aussi sur cet impact logistique et de la livraison, tant sur étoffer le réseau de ces fameux points relais, points de dépôt et de retrait. Et dans la stratégie qui future, ça fait partie d'un des axes qui sera exploré, c'est-à-dire comment continuer aussi à réduire cet impact du transport. Donc, par exemple, ça peut être des pistes comme optimiser le volume des livraisons, comment augmenter le volume de livraison qui est fait en véhicule électrique ou en énergie recyclée. C'est le cas actuellement sur les consignes Vinted Go qui sont disponibles dans certaines villes en France. Le transport de ce qu'on appelle sur le premier kilomètre et le dernier kilomètre, c'est-à-dire sur le premier kilomètre de la livraison, dernier kilomètre de la livraison, il est fait par des véhicules électriques. Donc, c'est petit à petit comment on va peser davantage aussi sur ce secteur-là.
Est-ce que c'est une étude qui a vocation à être cycliquement réitérée, à visée comparative, et justement pour voir comment vous vous améliorez?
C'est quelque chose qui va être aussi défini dans la stratégie, tout simplement parce qu'il peut peut-être aussi y avoir d'autres aspects à étudier plus en profondeur, peut-être aussi avant. Donc c'est quelque chose qui va être défini. Il faut savoir aussi que on s'est engagé avec l'initiative Science-Based Target, qui a pour but premier aussi de limiter les émissions à l'augmentation des émissions à 1,5%. Donc ça, on s'est engagé à cette initiative-là. Ça veut dire que l'objectif, c'est de continuer à réduire aussi nos émissions. Donc on va réfléchir à s'il y a d'autres études nécessaires, ou si on revêt celle-là, à quelle fréquence, tout ça pour pouvoir atteindre aussi ces objectifs là qu'on s'est donné.
Très bien, il nous reste trois petites questions d'ouverture.
Oui.
Et je vais passer la main à Coraline.
Est-ce que tu as un livre, un site, un podcast ou autre référence culturelle à nous donner pour se renseigner sur le sujet de la seconde main ou de la mode responsable?
Oui, le podcast, ce serait celui de Chloé Cohen, le nouveau modèle. En particulier sur les derniers qui ont été mis en ligne, c'est des tables rondes aussi avec la Fédération de la mode circulaire. Sur justement le réemploi, la seconde main, la sensibilisation aussi sur des nouveaux modèles de consommation. Donc c'est assez accessible et ça permet vraiment de se renseigner sur le sujet.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans ce podcast?
Alors, il y a quelqu'un que je suis beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'elle soit francophone, mais elle s'appelle Madeleine Daria Alizadeh. J'espère que je prononce bien son nom, parce qu'en fait, sur Internet, elle est plus connue comme Daria Daria. C'est elle est autrichienne. J'ai commencé à la suivre il y a des années de ça, quand elle était influenceuse mode. Et déjà, à l'époque, elle faisait assez attention avec les collaborations qu'elle avait avec certaines marques de mode. Et puis, elle a fini par s'engager pleinement pour la mode éco-responsable. Elle a même créé son propre label, qui s'appelle Daria D, entièrement aussi éco-responsable. Elle a un discours sur justement cette mode durable, loin de la fast fashion, qui est très déculpabilisant. Il n'est jamais stigmatisant, jamais autoritaire. C'est très bienveillant. Ce que j'aime beaucoup, c'est son approche justement transparente, c'est-à-dire qu'elle partage aussi ses doutes, ses contradictions. Depuis le temps que je la suis, c'est vraiment sa réflexion aussi sur le long terme qui était très intéressant à suivre. Et au-delà de son combat contre le changement climatique et pour une mode aussi plus respectueuse, elle défend aussi plusieurs autres causes qui, moi aussi, me tiennent à cœur. Donc, le droit des femmes, l'inclusion, la diversité, la justice sociale. Comment rester aussi optimiste avec toutes les crises que le monde traverse. Donc, je pense que, en tout cas, sur la partie aussi mode plus responsable, son cheminement de pensée, elle aurait toute sa place aussi à en discuter ici.
Bon, c'est sûr qu'on va aller regarder, en tout cas, parce que on aime vraiment partager aussi des profils d'influence engagés,
oui,
qui partagent autre chose que la mode qu'on connaît aujourd'hui,
quoi. Oui, c'est ça. Puis elle est auteure aussi, elle a fait un livre, je ne sais pas s'il est disponible en français, mais je pense qu'elle est devenue entrepreneur, auteure, c'est multiples facettes.
Merci pour cette référence. Et dernière question, est-ce qu'il y a une personne, une rencontre qui a changé ta vie professionnelle?
Alors, j'ai réfléchi. Oui, ça peut paraître un peu corporate, mais c'est la réalité. Et on va peut-être boucler la boucle, mais on va revenir à Milda. Donc, Milda Mitkouté, qui est la fondatrice aussi de Vinted. Quand j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'habillement, ce n'était pas forcément autour de la seconde main. Et quand j'ai intégré Vinted, c'était une vraie curiosité à une époque où l'application commençait à décoller en France. Les gens ne savaient pas vraiment qui on était. La seconde main, c'était quelque chose que je connaissais, que j'avais commencé aussi à adopter, mais j'avais encore beaucoup de questions. Et j'ai eu cette chance-là de rencontrer Milda assez rapidement quand j'ai commencé chez Vinted. Ça m'a un peu captivé son histoire, cette anecdote, ce bébé qu'elle a développé alors qu'elle n'avait pas du tout cette ambition, qu'elle n'y connaissait rien en termes de développement d'une entreprise, etc. Et surtout son honnêteté, de raconter son histoire en toute transparence en disant « ben oui, j'achetais beaucoup de vêtements, j'aimais beaucoup la mode et de raconter que sa propre conscience aussi écologique s'est développée en développement vitaine. C'est-à-dire en prenant conscience de l'ampleur, en prenant conscience des questionnements des gens aussi qui utilisaient, de l'engouement autour de la seconde main, de la raison pour laquelle les gens voulaient avoir la seconde main. De voir les attentes aussi. Et aujourd'hui, si elle travaille plus chez Vinted, comme je disais, elle reste beaucoup en contact avec l'équipe dirigeante. Elle a fait beaucoup d'études aussi sur... Elle a étudié sur le sujet. Elle est maman aussi de plusieurs enfants. Et elle fait tout pour les élever dans cette démarche aussi de consommation plus responsable, plus raisonnée. Elle s'engage aussi pour davantage de visibilité sur les causes, les conséquences du changement climatique. Et donc, je pense que ça a été une rencontre qui, moi, m'a mise un peu sur le bon chemin. Ça a participé à amorcer encore davantage ma réflexion sur la seconde main, sur mes propres habitudes de consommation. Ça m'a mis sur le bon chemin pour... communiquer en transparence autour de la mission. Je travaille dans la communication, mais de savoir que voilà, j'avais le droit d'être, d'être transparente et d'être honnête aussi en parlant de l'entreprise, en parlant d'où venait son histoire, etc. C'était très important. Et je pense que voilà, ça fait partie des personnalités où j'estime que j'étais chanceuse de pouvoir aussi intégrer l'entreprise à une époque où on était aussi moins nombreux. Et j'ai eu cette chance-là de pouvoir la rencontrer, de pouvoir lui parler, d'échanger encore de temps en temps avec elle. Aujourd'hui, j'ai vraiment drastiquement réduit mes achats mode. Quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais vraiment essayer de le penser seconde main dans un premier temps. Et ça ne l'était pas encore dans cette ampleur-là il y a 4 ans en arrière.
C'est sûr, et puis c'est toujours... Enfin, ça apporte une autre saveur au travail aussi, oui. Quand on sait que le dirigeant a une conscience écologique, oui. Aussi personnelle que dans sa profession, quoi.
Tout à fait.
Donc,
c'est très motivant, oui. Et je pense que la transparence en interne aussi est quelque chose auquel notre PDG actuel, Thomas, tient beaucoup. Cette étude, par exemple, dont on a discuté, c'est quelque chose qui a été partagé en premier lieu en interne. Et c'était enthousiasmant aussi de voir l'importance et l'engagement, la curiosité des gens en interne pour cette étude et comprendre voilà où est-ce que ça allait nous mener, quel était l'impact du travail qu'on pouvait fournir et qu'on a encore à fournir. Dieu sait qu'il y a plein de choses à faire encore à l'avenir.
Merci beaucoup pour cet épisode.
Merci à vous.
Je remarque, et je ne m'étais jamais fait la réflexion, que pour une femme fondatrice et anciennement dirigeante, il y a une vraie culture de la discrétion, en fait, et qu'on l'entend peu, et que c'est quelqu'un qui a l'air assez humble, ce qui est tout à son honneur aussi.
Oui, c'est vrai.
Je ne suis pas sûre de fait qu'on la reçoive un jour sur le podcast. En revanche, je retiens Daria, et je te propose, si c'est le cas, et si elle ne parle pas anglais, que tu viennes faire la version thème en allemand.
Oh là là. Alors ça, c'est un défi. Merci.
Mais merci beaucoup pour toutes ces infos précieuses.
Merci.
On met toutes les références mentionnées dans les notes de l'épisode. On redit que le rapport est téléchargeable dans sa version digest ou sa version intégrale pour celles et ceux
deux.
Qui sont très motivés.
Absolument.
On espère qu'on va participer à l'amplification du message en faveur de cette mode circulaire.
J'espère qu'on reviendra pour partager les prochaines étapes, la stratégie, etc.
Avec plaisir, voilà. Merci Natacha.
Merci.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.